France Culture. Ils ont changé le monde. Les accords internationaux. Isabelle Lasserre.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette troisième saison d'été des grands accords internationaux. Pendant deux semaines, nous irons sur tous les continents pour revivre et relire ces accords qui ont changé l'histoire, mis fin à des guerres, créé de nouvelles organisations. Certains n'ont jamais tenu leurs promesses, d'autres sont morts, d'autres encore ont dû se réformer pour survivre. Mais tous ont été directement ou indirectement secoués par le chaos du monde et par ces deux principales tempêtes récentes, l'invasion de l'Ukraine par la Russie et le retour à la Maison Blanche de Donald Trump, le président le plus disrupteur qu'aient jamais connu les États-Unis, qui a mêlé sa voix à celle des dirigeants autocrates pour remettre en cause et transformer l'ordre international issu de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, pour cette première étape, cap vers l'Asie et la péninsule coréenne. Elle tient depuis 1953, mais elle est régulièrement mise au défi par les tensions géopolitiques. L'armistice de Panmunjom a officialisé la partition de la péninsule coréenne entre le nord communiste et le sud capitaliste. Elle a fait taire les armes et créé entre les deux pays une zone tampon démilitarisée de 253 km, la DMZ, mais n'a jamais été suivie par un accord de paix. Depuis, la Corée du Nord, toujours communiste, et la Corée du Sud, toujours rangée du côté de l'Occident, se tiennent en respect le long du 38e parallèle. Mais en théorie, elles sont toujours en guerre. Et il arrive que celle-ci projette à nouveau son ombre sur la péninsule, comme les tirs de missiles nord-coréens au printemps 2025, comme la destruction des routes de la ligne de démarcation ou la rhétorique belliqueuse de Pyongyang depuis que Kim Jong-un a enterré, fin 2023, la politique de réconciliation entre les deux Corées de son père et rompu avec sa politique du rayon de soleil avec le Sud. L'échec des tentatives diplomatiques de normalisation des relations avec Pyongyang, lancées de manière tonitruante par Donald Trump 1 à Singapour et Hanoï en 2019, puis la guerre en Ukraine. Et les tensions entre la Chine et les États-Unis ont conduit à un repositionnement stratégique de la Corée du Nord. Le Sud est désormais considéré par Pyongyang comme un État hostile. La Corée du Nord a signé un partenariat stratégique avec la Russie, à laquelle elle fournit des obus par millions, mais aussi des troupes pour l'aider dans sa guerre en Ukraine. Quelles seront les conséquences de la politique asiatique de Donald Trump dans la péninsule? Quel est l'avenir des relations entre les deux Corées? L'armistice peut-il être remis en question par les enchaînements géopolitiques dans la région? C'est ce que nous allons tenter de comprendre aujourd'hui avec Bruno Tertrais, directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique et auteur, entre autres livres, de La Guerre des Mondes, nouvelle édition en février 2025, aux éditions Alpha, et aussi, je vais citer, l'Atlas des frontières, dans sa nouvelle édition, également 2025, aux éditions des Arènes. Et avec François Gonnement, historien, grand spécialiste de la Chine et de l'Asie, conseiller spécial à l'Institut Montaigne, et auteur de « Chine, scénario 2035, les chances de succès », paru fin janvier 2025 sur le site de l'Institut Montaigne. Bonjour messieurs.
Bonjour. Bonjour.
Alors, un petit rappel historique d'abord. En 1950, le régime communiste du Nord, dirigé par Kim Jong-il, le père de l'actuel dirigeant Kim Jong-un, a envahi le sud de la péninsule, provoquant ainsi une contre-offensive de l'ONU. Les armes se taisent 3 ans plus tard. Alors, Bruno Tertrais, en 1953, on a un armistice. Mais un armistice, ce n'est pas la paix. C'est mieux qu'un cessez-le-feu ou une trêve. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer les différences?
Oui, effectivement. Alors, ces mots qui sont très utilisés aujourd'hui dans l'actualité à propos de l'Ukraine, en fait, leur hiérarchisation n'est pas parfaite, mais en gros, on va dire qu'une trêve, c'est très provisoire, ça peut concerner une partie seulement du champ de bataille. Un cessez-le-feu, c'est plus important, c'est l'étape du dessus. Un armistice, alors là, ça met fin au combat. Mais ça ne veut pas dire la paix. Et ça, c'est un thème central, je pense, dont on va parler, Isabelle Lasserre, au cours de cette émission. L'armistice, ce n'est pas la paix. Il n'y a pas de traité de paix entre les deux Corées. Donc, les armes se sont tues. Hein, c'est l'étymologie d'armistice. Mais elles se sont tues d'une manière provisoire. Mais un provisoire qui dure désormais depuis 1953.
Alors on va entendre pourquoi un armistice n'est pas la paix, parce que depuis 1953, la péninsule connaît régulièrement des tensions, comme en octobre 2024. Écoutons ce son de TV5 Monde.
Nouveau signe d'un regain de tension entre les deux Corées. Alors qu'elle continue ses envois de ballons quotidiens, l'armée nord-coréenne a détruit ce mardi des tronçons de route autrefois utilisés pour des échanges transfrontaliers avec son voisin. Hautement symbolique, cette frontière est en réalité totalement fermée depuis la fin de la guerre en 1953. Depuis, elle fait partie des plus surveillées au monde. Plus tard dans la matinée, Séoul a dénoncé cette initiative des hommes de Kim Jong-un.
Ce que la Corée du Nord a fait aujourd'hui en faisant exploser les routes intercoréennes du côté nord constitue une violation flagrante de l'accord intercoréen et nous considérons cela comme un acte tout à fait anormal. Et le gouvernement sud-coréen le condamne fermement.
Depuis 3 ans et l'arrivée au pouvoir de Yoon Suk-yeol à Séoul, Kim Jong-un n'a cessé de durcir sa politique frontalière. Conservateur et enclin à renforcer l'alliance militaire avec le Japon et les États-Unis, Yoon Suk-yeol est devenu l'ennemi numéro un de Pyongyang, alors que les relations entre les deux pays s'étaient réchauffées au cours de la dernière décennie. Mais aujourd'hui, largage de tracts, survol de drones, les deux Corées se répondent coup pour coup. Une situation dénoncée par de nombreux Sud-Coréens, lassés de vivre au rythme des tensions.
En tant que Coréen, je pense naturellement que c'est dommage. J'espère que nous pourrons interagir plus activement afin de rétablir les relations entre le Sud et le Nord.
Alors, François Gonnement, quel était le contexte de la guerre à l'époque? Pourquoi l'armistice n'a pas été suivi par la paix?
Tout simplement parce que les deux parties étaient soutenues l'une par les États-Unis, l'autre par l'URSS, ça va devenir un pôle de la guerre froide. La Chine est également de la partie. Parce qu'il faut bien dire que le grand-père, le père et le fils, les trois Kim, ont joué avec une habileté remarquable également des différences d'influence entre Russes et Chinois pour toujours s'appuyer sur le camp le plus résistant au fil du temps. Le grand-père avait purgé les partisans des deux, pour être plus sûr, dans son appareil, très tôt, dès la deuxième moitié des années 50. Et à l'époque, les Russes et les Chinois avaient envoyé des délégations en commun pour plaider pour leurs partisans. Mais depuis, ce jeu de balancier a parfaitement continué. Il faut ajouter quand même la ténacité de l'establishment, j'hésite à dire communiste, dynastique, militaire, autant que communiste, de Corée du Nord, et la façon donc dont il a résisté. Je dirais que la péninsule coréenne est vraiment le tombeau d'à peu près tous les styles d'initiatives diplomatiques qui ont pu exister. On pourrait les énumérer, toutes les erreurs qu'on peut faire, tout ce qui se retourne contre des initiatives, on l'a vu en Corée. C'est assez important d'ailleurs quand on regarde d'autres cas possibles en présence d'un adversaire aussi déterminé que la famille Kim.
Bruno Terfel.
Quand on est dans ce type de situation, historiquement, plus ça dure, plus ça a des chances de durer. Je m'explique. La situation sur la péninsule coréenne est véritablement enquistée sur le plan militaire et diplomatique, comme d'ailleurs c'est le cas aussi au Cachemire ou dans d'autres zones contestées. En fait, le statu quo convenait finalement assez bien aux deux parties. Et par ailleurs, il y a un paramètre que François et vous-même connaissez bien, c'est le changement phénoménal qui s'est produit du point de vue du développement des économies des deux pays. Autrement dit, alors j'ai pas tous les chiffres en tête, François Gaudemont les connaît peut-être mieux que moi, mais dans les années 1960, la Corée du Nord et la Corée du Sud, c'est à peu près la même chose du point de vue économique. Il y a ce développement fulgurant de la Corée du Sud, qui est en fait aujourd'hui une très grande puissance économique, qui fait que l'idée même d'une réunification est devenue de plus en plus absurde, tant les sociétés et surtout les économies des deux pays sont devenues différentes.
Ça, on en parlera après, mais ma question était plutôt sur 1953. En fait, pourquoi on n'a pas réussi à avoir plus qu'un armistice en 1953?
Parce que tout simplement, il faut être deux pour faire la paix. C'est aussi simple que cela. Or, à partir du moment où les deux États revendiquaient quelque part la souveraineté, en tout cas la légitimité de la souveraineté sur l'ensemble de la péninsule, il ne pouvait pas, à mon sens, y avoir véritablement de paix. À partir du moment où Séoul et Pyongyang souhaitaient gouverner l'ensemble de la péninsule, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il pouvait y avoir de paix au sens juridique du terme.
François Gonnement.
Il n'y a pas plus de possibilité d'un accord complet qu'entre les deux Allemagnes. En fait, la division a commencé avec la guerre, bien sûr, et avec les partisans soutenus notamment par la Chine, Kim Il-sung, et par l'URSS, Kim Il-sung est revenu en officier de l'armée soviétique, si vous voulez. Donc y mettre fin, ça serait mettre fin à la guerre froide. C'était rigoureusement impossible.
Et quelle était, Bruno Tertrais, la position des États-Unis à l'époque ?
La position des États-Unis, en fait, est très ambiguë, puisque c'est en fait une intervention américaine sous couvert de l'ONU, c'est-à-dire officiellement, juridiquement, ce sont les forces de l'ONU qui sont intervenues.
Aujourd'hui, ce serait l'OTAN, hein ?
Alors, aujourd'hui, ce serait l'OTAN, sauf que c'est quand même pas tout à fait, la même chose. Mais ce qui est intéressant, c'est que les pays qui garantissent l'armistice, en fait, il y a à la fois l'ONU, d'ailleurs une présence suédoise et suisse, tout ça est très balisé, très normé. Quand on va à Panmunjom, on voit, c'est vraiment encore la guerre froide. Mais en même temps, les pays qui sont intervenus, y compris la France d'ailleurs, les pays européens occidentaux qui sont intervenus en défense de la Corée du Sud, se sont engagés à soutenir la Corée du Sud si elle était de nouveau attaquée. Donc la grande différence avec l'Allemagne, effectivement, même si l'analogie est pertinente, c'est que la guerre froide n'est toujours pas finie en Asie. Je ne suis pas le premier à le dire, bien sûr, une formule assez classique chez les spécialistes, mais je crois qu'il faut déporter notre regard en tant qu'Européens. La guerre froide, elle existe toujours en Asie et certainement sur la péninsule coréenne.
Est-ce qu'on peut comparer dans ces cas-là ce qui se passe aujourd'hui entre les deux Corées, ces montées de tensions régulières, à ce qui se passe en Ukraine ou pas du tout, François Gonnement ?
À mon avis, très peu. D'abord, il faut s'interroger sur comment ça se fait que l'ONU est aujourd'hui impuissant dans le dossier ukrainien, alors que l'ONU a permis cette intervention internationale appuyée sur le droit international. Ça résulte à l'époque de la politique soviétique de la chaise vide au Conseil de sécurité. Il n'était pas là. Tout simplement, il le boycottait. Et c'est ce qui a permis d'éviter un veto russe et de voter cette intervention. Aujourd'hui, les choses sont évidemment totalement différentes. Je voudrais souligner aussi que l'intervention de l'ONU et la présence de l'ONU, à ses bons côtés, j'ai déjeuné d'une fondue au chalet suisse dans la zone de Panmunjom. Une fois
ça
un chalet.
Alors, c'est quand même très très classe.
Un chalet en bois avec des coucous et des officiers suisses. Pas très loin de l'endroit où un officier américain s'était fait tuer à coups de hache. Il était en train de déboiser et il s'était fait tuer à coups de hache par une incursion de Nord-Coréen. Il y a toujours eu une incidentalité, mais l'ONU a permis quand même de contenir les choses, si vous voulez. D'autre part, la Corée du Sud est devenue le partenaire le plus fort par rapport à la Corée du Nord. Alors, c'est jamais sûr sur le plan militaire, parce que sur le plan conventionnel, les Nord-Coréens ont une force de frappe assez considérable et surtout une résistance aux pertes. On l'a vu en Ukraine, d'ailleurs, récemment. Mais sur le plan économique, tout s'est renversé, comme le disait Bruno.
Bruno Tertrais, la Corée, l'Ukraine, il y a des parallèles aujourd'hui ou pas ?
En fait, oui, il y a pas mal de parallèles, à mon sens. D'abord parce que, et je ne suis pas le premier à le dire, quelque part, l'Ukraine, c'est un peu la guerre fondatrice de cette nouvelle guerre froide, comme la Corée avait été la guerre fondatrice de la guerre froide. Encore une fois, on l'oublie un petit peu, nous, Européens, mais ça a été un événement majeur. D'abord, une très grande guerre majeure, avec des taux de perte absolument hallucinants. Hein. On combat à ce moment-là, comme on combat pendant la Deuxième Guerre mondiale. De la même manière, avec des bombardements vraiment extrêmement meurtriers, notamment d'ailleurs pour le côté nord-coréen. Et puis, il y a à cette époque-là un débat aux États-Unis sur quelle doit être la priorité de la diplomatie américaine. Est-ce que ça doit être l'Asie ou est-ce que ça doit être l'Europe ? C'est vraiment Asia first, l'Asie en premier, ou Europe first, l'Europe en premier. Encore une fois, quand on est aux États-Unis, nous, Européens, on voit souvent la guerre froide comme quelque chose qui a été essentiellement quelque chose d'européen. Non, la guerre froide était mondiale. Il suffit de regarder un planisphère. Vous êtes du côté américain, il y a à gauche l'Asie et à droite l'Europe. Il y a énormément de fils à tirer dans ce parallèle. Je voudrais en rappeler un peut-être pour alimenter le débat. Une des raisons pour lesquelles la Corée du Nord semble avoir pris la décision d'envahir la Corée du Sud en 1950, c'est le fait que l'Amérique dit très clairement, en avril 50 je crois, là je cite, la péninsule coréenne n'appartient pas au périmètre défensif des États-Unis. Et donc ça veut dire que vous avez carte blanche. Et quelque part ça peut rappeler un petit peu, mutatis mutandis, le fait que l'Ukraine n'était pas sous une garantie de sécurité américaine ou autre. Voilà, c'est juste factuel. Le parallèle ne peut pas être tiré trop loin. Simplement, on voit qu'un agresseur communiste, en l'espèce, prend cette initiative, sachant qu'a priori, il n'y a pas de raison qu'elle soit contrée par une alliance, par un engagement de défense occidentale. Effectivement, c'est un premier parallèle, mais il y en a d'autres. Isabelle Lasserre, peut-être qu'on y reviendra, parler de la participation.
Non, allez-y, c'est très intéressant.
Non, mais il y a aussi la participation de la Chine au combat en Corée, il y a la participation de la Corée au combat en Ukraine. Il y a aussi quelque chose qu'on a un petit peu oublié, mais ça vaut la peine d'en dire un mot, c'est la question du risque d'emploi de l'arme nucléaire par les Américains qui, à un moment, se posent cette question, notamment du point de vue militaire. Il y a, il y a des commandants sur place qui disent que ça, c'est peut-être le moment d'employer l'arme nucléaire, qui n'est pas encore un tabou. On est en 1951-52, il n'y a pas du tout de tabou. On se demande encore à ce moment-là si l'arme nucléaire doit être un outil plutôt militaire ou plutôt politique. C'est pas du tout la même époque. Et là, Eisenhower a cette phrase très célèbre et extrêmement intéressante. Il dit de mémoire, « Vous êtes fous les gars, je ne peux pas employer l'arme nucléaire pour la deuxième fois en 10 ans sur un peuple asiatique. » Ça dit quelque chose de la manière dont il réfléchissait à cette époque-là. En tout cas, le fait est que les Américains se sont dit, on n'emploie pas l'arme nucléaire, de même que, alors pour des raisons qu'on comprendra sans doute un jour, mais Poutine semble lui aussi avoir quelque part cette prévention à l'égard de l'arme nucléaire, dont il pressent, à mon sens, que ça n'est pas une arme comme les autres.
François Gonnement, est-ce qu'on peut faire une espèce d'historique assez rapide de toutes les périodes de tensions depuis 1953 entre les deux Corées? À quoi sont-elles dues? Est-ce qu'elles sont dues aux crises internationales, à des raisons de politique intérieure, à l'élection en 2022 du président sud-coréen Yoon Suk-yeol, plus dur en fait, qui depuis d'ailleurs a été destitué? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les ressorts de ces montées de tensions régulières?
Alors d'abord, si on se place d'un point de vue nord-coréen, on peut poser un véritable théorème. Dès que la tension internationale s'accroît, des crises apparaissent qui vont mobiliser l'attention, la Corée du Nord en profite pour, je dirais, accroître l'attention sur la péninsule coréenne, créer une incidentalité. Est-ce que c'est pour se rappeler au bon souvenir de tous, pour dire on existe? Ça l'a été de plus en plus souvent, notamment pour exiger des contreparties en échange d'un abaissement de l'attention. Ou est-ce que c'est parce qu'ils profitent de cette situation pour se mettre dans une attitude de surenchère régionale en comptant que leurs principaux soutiens ne les en empêcheront pas? Les trois ont pratiqué ça à la fin de la guerre du Vietnam, par exemple, la débâcle américaine au Vietnam. Vous avez la prise d'un navire américain, le Pueblo, qui est encore exposé quelque part, pas loin de Pyongyang, si vous voulez. C'est quelque chose de très important. Vis-à-vis de la Chine, je compare même ça à la baleine et le rémora, si j'ose dire. Quand la baleine bouge, le rémora bouge avec elle et suscite des incidents. Ça, c'est le principe général. Ensuite, il y a toute la saga de la nucléarisation nord-coréenne. Elle vient de très loin, elle vient du milieu des années 50. Elle a commencé avec l'aide russe. En même temps, d'ailleurs, que la nucléarisation de la Chine commençait. La Russie a commencé à transférer des capacités de recherche dès cette époque. Elle n'était pas la seule, hein. Il y a eu un réacteur graphite-gaz analogue à un réacteur français qui est également passé en Corée du Nord, qui a également été construit en Corée du Nord. On a complètement oublié cet épisode et les Français ont abandonné cette filière. C'est pour dire que tout le monde n'a pas toujours envisagé la solidité et la durée du régime nord-coréen. Tout au long des années 90 et 2000, là, c'est vraiment effectivement le tombeau de toutes les initiatives pour mettre fin à cette aventure nucléaire. On essaye des accords de compensation, on essaye des accords de dénucléarisation, on essaye des accords d'engagement sur le plan économique et de coexistence pacifique, on peut dire, et de co-développement avec la Corée du Nord. Le son que vous avez fait tout à l'heure sur la rupture totale et la destruction des routes, mais c'est parce que dans la phase précédente, la Corée du Sud a créé avec la Corée du Nord une zone de développement avec des usines, des implantations sud-coréennes conjointes au-delà de la ligne de démarcation. Tout ça a volé en éclats petit à petit. Donc il y a, si vous voulez, un rapport entre la situation internationale et la situation globale. Il pourrait y en avoir encore un aujourd'hui, par exemple, si une crise sur Taïwan se déclenchait. Il me paraît évident que la Corée du Nord en profiterait aussitôt.
Bruno Tertrais, pourtant, il y a eu quand même une phase assez calme quand le père de Kim Jong-un, donc Kim Jong-in, a lancé en fait sa politique de réunification avec la Corée du Sud. C'était une espèce de normalisation. Qu'est-ce qui a mis fin à cette idée de réunification entre les deux parties de la péninsule?
Pour la réunification, je ne sais pas, mais pour la détente avec les États-Unis, oui, je crois qu'effectivement, il y a un moment où l'idée ou l'espoir de relations normales entre un pays qui, comme beaucoup de pays au monde, voulait être pris au sérieux, littéralement, cet espoir de relations normales entre la Corée du Nord et l'administration Clinton, notamment, c'était quelque chose qui était tout à fait envisagé, à mon sens, par le régime de Pyongyang. La question, c'est jusqu'où étaient-ils prêts à renoncer à certains de leurs atouts stratégiques en échange de cette normalisation. Vous savez bien, Isabelle Lasserre, qu'une fois qu'on a beaucoup investi sur un programme nucléaire, jusqu'à faire des essais nucléaires, c'est très difficile de revenir en arrière tellement vous avez investi. De même que lorsque le dirigeant nord-coréen rencontre Donald Trump en 2018, ce n'est pas seulement pour la galerie. Je pense qu'il est très heureux de voir qu'enfin un président américain se mette à son niveau et quelque part, c'est une grande victoire symbolique diplomatique et des images sont extrêmement positives du point de vue du régime. Je reviens sur un point à propos des années 1990. Moi, je me souviens d'une discussion avec l'un des négociateurs américains sur ce qu'on a appelé l'accord cadre de 1994, où en gros, on avait essayé de régler la question nucléaire. Vous n'aurez pas de nucléaire militaire, vous aurez de nucléaire civil. Eh bien, l'un des négociateurs me disait, mais tu sais, à l'époque, on était absolument persuadé que dans 20 ans, la Corée du Nord n'existerait plus. Et ça, c'est le grand problème des sociétés libérales que sont les nôtres. On sous-estime fréquemment la capacité de ces régimes à durer. On voyait la Corée du Nord comme un pays anachronique. Mais non, c'est pas possible que ça puisse continuer à exister comme cela. Et à chaque fois, on se fait avoir, j'allais dire. Et de même qu'en ce moment, la Russie est en train de se transformer, on le dit souvent, en une sorte de gigantesque Corée du Nord. Et ça nous semble complètement hallucinant, nous, en tant qu'Européens de la partie occidentale du continent. Et pourtant, à chaque fois, on est surpris, malheureusement.
Oui, mais je me souviens d'ailleurs, au premier temps du développement du programme nucléaire nord-coréen, moi je faisais des papiers là-dessus, et les spécialistes, soi-disant, de la Corée du Nord, journalistes, me disaient, mais arrête de les prendre au sérieux, enfin, c'est absolument pas possible, les Nord-Coréens ne pourront jamais avoir la bombe atomique, ils en sont absolument pas capables.
Ça, c'est un travers que l'on avait, nous, Européens, et nous, Français en particulier, je crois, c'était de dire que parce que nous avions fait la bombe quasiment tout seul et de manière assez rapide, eh bien, il était impossible que la Corée du Nord ou l'Iran ou le Pakistan fassent aussi bien avec moins de temps. C'est pas possible. Enfin, nous, il nous a fallu 2 ans pour faire telle ou telle manœuvre. Eux, il leur fera forcément au moins 5 ans. Ça a été un grand travers occidental, notamment français.
Et alors François Godemont, pourquoi le Nord a-t-il mis fin à la politique de réunification avec le Sud ?
Elle tenait quand même aussi à la politique intérieure sud-coréenne, l'arrivée au pouvoir de l'opposant démocratique de toujours, Kim Dae-jung. Il faut se dire qu'une partie, une bonne partie de l'opinion sud-coréenne est assez pacifiste. D'abord, elle a subi une guerre terrible, comme le disait Bruno, elle a subi un régime militaire très long et très dur. Il y a le thème des familles divisées. La Corée du Nord l'a assez bien utilisé parce que les premiers épisodes de réchauffement ont été accompagnés de rapprochements entre les familles divisées, parfois y compris pour des dignitaires sud-coréens dans l'establishment du renseignement qui avait de la famille en Corée du Nord. Donc il y a eu tout cet accent-là. Et puis le fait est que la Corée du Nord n'a pas délivré, comme on dit, ou est revenue sur tous ses engagements. Elle n'a pas construit le nucléaire toute seule, puisqu'on citait le Pakistan, la filière dite AQCAN, qui en gros a fait au minimum transiter le modèle de bombard russe qui était déjà passé à la Chine, de la Chine au Pakistan, et du Pakistan à la Corée du Nord. Les matériaux, dans l'autre sens, les missiles livrés par la Corée du Nord au Pakistan, les avions s'arrêtaient en Chine. Donc faut quand même pas s'imaginer, la Chine a, à mon avis, joué un double jeu pendant toute cette période. Les Américains se sont bercés d'illusions pendant une vingtaine d'années sur le fait que c'était la Chine qui allait jouer le rôle modérateur et faire réussir des conversations à 4 d'abord, puis à 6 sur la péninsule coréenne pour mettre fin à la nucléarisation. Rien n'a marché.
Alors, qui se ressemble, s'assemble, comme Vladimir Poutine et Kim Jong-un en Corée du Nord en juin 2024. Écoutons ces sons de France 24 et de TV5 Monde.
La Corée du Nord exprime son soutien total et sa solidarité au gouvernement, à l'armée et au peuple russe dans la conduite d'une opération militaire spéciale en Ukraine pour protéger la souveraineté, les intérêts de sécurité et l'intégrité territoriale.
Le traité de partenariat global signé aujourd'hui prévoit, entre autres, une assistance mutuelle en cas d'agression contre l'une des parties de ce traité.
France Culture, ils ont changé le monde. Les accords internationaux. Isabelle Lasserre.
Voilà, donc on a d'abord entendu le président nord-coréen, puis le président russe. Bruno Tertrais, en quoi le partenariat stratégique entre la Corée du Nord et la Russie change-t-il la donne dans la région ? Alors je parle de la péninsule, et puis vous pouvez élargir à la région.
Oui, alors ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y avait plus de garantie de sécurité extérieure pour la Corée du Nord. La Corée du Nord n'avait plus que la bombe, en gros. D'ailleurs, ça sert souvent à cela. Ce qui est déjà pas mal, et ça sert à pallier l'absence d'une garantie de sécurité extérieure. Je dois dire que cela fait partie des surprises que l'on a eues au cours de ce conflit ukrainien. Même nous qui savons faire beaucoup de scénarios, parfois on est surpris. En tout cas, moi, j'ai été surpris parce que l'Union soviétique avait, en gros, abandonné son engagement de défense envers Pyongyang en 1991. Et là, on renoue avec une vieille tradition. De même qu'on voit beaucoup de choses de la guerre froide réémerger, eh bien on voit Moscou renouer avec un engagement de défense mutuelle avec la Corée du Nord. Ce qui est intéressant, c'est que, eh bien, il a été tout de suite testé, cet engagement, puisque les Nord-Coréens sont venus défendre littéralement le territoire russe, ou plutôt essayer, tenter maladroitement, je crois, d'aider les forces russes à déloger les forces ukrainiennes de la région de Koursk. Mais ça fait partie des petites surprises qui nous montrent aussi que les liens entre ce qu'on appelait autant la guerre froide le théâtre est-asiatique et le théâtre européen, ces liens sont constants et que même quand on ne veut pas les voir, nous, Européens, eh bien, ils se rappellent à notre bon souvenir. De même qu'on a vu les technologies nucléaires nord-coréennes arriver jusqu'à la rive orientale de la Méditerranée lorsque les Nord-Coréens ont construit un réacteur nucléaire en Syrie, eh bien, on a vu ensuite les missiles nord-coréens arriver en Iran. Et puis maintenant, on voit maintenant les soldats nord-coréens arriver à quelques étapes du Tour de France. Donc, qu'on le veuille ou non, l'interconnexion des théâtres stratégiques s'impose à nous.
François Godemont, qu'est-ce que ça change pour vous, en fait, ce rapprochement stratégique et militaire entre la Russie et la Corée du Nord ?
Ça fait partie des alliances de revers qu'on conclut quelquefois, aussi bien pour prendre de court la Chine, d'ailleurs, parce que de ce point de vue-là, Poutine n'a pas forcément satisfait complètement Xi Jinping, parce qu'il donne une marge de manœuvre supplémentaire à la Corée du Nord, ce que la Chine n'aime pas. Par principe,
c'est qu'elle aime contrôler entièrement
la Corée du Nord. Elle est en principe le poumon économique de la Corée du Nord. Faut pas oublier qu'il y a quand même un chemin de fer qui mène sur un territoire qui mène directement à la Russie. Il y a une possibilité d'échange. La Russie a pas appliqué, pas plus que la Chine d'ailleurs, toutes les sanctions de l'ONU. Il y a un parallèle avec la politique américaine, vous savez. Avant Trump, Obama avait réussi un rapprochement avec la Birmanie de la junte. Elle a détaché dans une certaine mesure de la Chine et ça a mené à, on va dire, l'épisode de démocratie birmane. Trump essaye en un sens de faire la même chose avec la Corée du Nord parce que c'est dans le cadre de sa politique vis-à-vis de la Chine aussi. Et on pouvait imaginer qu'en élevant Kim a un tel statut, si vous voulez, il emporterait la partie. Comme d'habitude avec Trump, c'était trop rapide, trop brouillon, et il s'est vite tourné vers d'autres centres d'intérêt.
Oui, la grande différence, c'est que la Birmanie n'avait pas la bombe nucléaire, alors que Corée du Nord l'avait. Mais qu'est-ce que ça change pour la Corée du Sud ? Est-ce que la Corée du Sud se sent beaucoup plus en insécurité depuis que la Russie et la Corée du Nord travaillent un petit peu main dans la main, en tout cas vis-à-vis de la guerre en Ukraine ? Est-ce que les Nord-Coréens peuvent acquérir une expérience de terrain militaire de nature à effrayer en fait la Corée du Sud ? Parce que c'est un espèce de baptême du feu pour eux.
Il y a plusieurs aspects là-dedans. Oui, effectivement, de ce qu'on sait, les Nord-Coréens envoyés en Ukraine et dans la région de Koursk se sont comportés à peu près comme en 1950 avec des vagues d'assaut. Et je ne sais pas s'il faut croire le bilan ukrainien qui dit qu'il y a 4000 pertes pour 10 000 soldats, mais il est clair que ça n'a pas été un succès. Ils apprennent en même temps, évidemment. Ça, c'est un aspect. Mais il y a d'autres aspects qui font que la Corée du Sud a toutes les raisons de s'inquiéter sur son avenir. D'abord, quand même, avec le contexte général de la politique de Trump, des doutes sur l'engagement américain et des doutes sur ce qu'on appelle la dissuasion élargie. Au fond, il y a un parallèle à faire, mais c'est bien plus fort qu'en Pologne. Vous savez qu'un président libéral, Tusk, qui dit que la Pologne pourrait peut-être se doter de l'arme nucléaire. C'est un, comment dire, quelque chose de lancé qui n'est pas une politique. Mais si vous regardez les sondages d'opinion et les débats en Corée du Sud, vous avez plus de 50% de l'opinion maintenant qui serait pour que la Corée du Sud se dote de l'arme nucléaire. Elle est face à une Corée du Nord qui, contrairement à ce qu'on disait, a pu continuer les essais balistiques, a acquis des missiles à longue portée, commence à miniaturiser ses armes, commence à les avoir en plus grand nombre, ne semble pas avoir coulé sous l'effet de la disette et sous l'effet des sanctions. D'ailleurs, on peut dire que les sanctions de l'ONU aujourd'hui sont neutralisées par l'influence russe et chinoise. Il y avait un comité pour l'observation des sanctions qui n'a jamais vraiment bien sanctionné et qui aujourd'hui a été aboli. Donc la Corée du Sud, je pense, se sent en réalité en plus forte insécurité qu'il y a 10 ans.
Est-ce qu'on sait exactement ce qu'il a reçu en échange de l'aide fournie à la Russie, Kim Jong-un, en termes d'aide militaire? Est-ce qu'on parle des programmes sensibles nord-coréens, balistiques et nucléaires? Est-ce qu'on en sait plus là-dessus?
Il y a eu des rumeurs sur une coopération nucléaire. Je n'ai pas vu de confirmation. Et vous savez, souvent, hélas, nos sources d'information sont américaines parce que ce sont les seules. Sous l'administration de Trump, c'est une chose qui va se tarir considérablement.
Il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'on voit très bien ce que la Corée du Nord apporte à la Russie aujourd'hui, notamment des hommes et des munitions. Mais effectivement, ce que la Russie apporte à la Corée du Nord est un petit peu plus flou. Je reste quand même sceptique sur l'idée que la Russie aiderait la Corée du Nord à concevoir ses armes nucléaires pour deux raisons. La première, c'est que, à force de dire que
elles sont déjà conçues.
Elles sont déjà conçues et encore une fois, on négligerait à notre propre péril la capacité de ce petit pays à faire, voyez, des choses que nous, on a mis beaucoup de temps à faire dans les années 50, 60 et 70. La deuxième raison, c'est que, encore une fois, la Russie a quelques tabous tout de même. Elle en a très peu, la Russie de Vladimir Poutine, mais il y en a quand même quelques-uns. C'est que l'idée d'aider directement un autre pays à concevoir ses armes nucléaires, c'est quelque chose qu'a priori la Russie ne fait plus depuis les années 1950. Alors tout peut changer, bien sûr, mais enfin, il y a quand même encore, semble-t-il, quelques tabous à Moscou.
Mais la Corée du Nord a déjà des armes nucléaires. Donc
oui, mais on peut les perfectionner.
On peut les perfectionner, alors, donc c'est évidemment plutôt dans la modernisation.
Oui, hein. Alors le grand enjeu pour la Corée du Nord, c'est de s'assurer qu'elle peut menacer de manière crédible le territoire continental des États-Unis avec des armes suffisamment petites et suffisamment légères pour que les services de renseignement américains se disent « Ah oui, là maintenant, on a bien une menace majeure nord-coréenne sur notre territoire ». Encore une fois, d'abord, si j'étais américain, je partirais du principe qu'ils l'ont déjà, ça me paraît prudent. C'est d'ailleurs pour ça que les Américains ont des problèmes de défense antimissiles du territoire. Mais encore une fois, la Russie, je ne suis pas du tout sûr qu'elle ait envie d'aider la Corée du Nord dans ce domaine-là, y compris parce qu'elle ne sait pas si elle donne ses informations pour la miniaturisation, pour la fiabilité, la robustesse des armes. Elle ne sait pas où iront ensuite ces informations.
Et la modernisation de l'armée, l'augmentation de l'arsenal nucléaire de la Corée du Nord, les visées sont doubles, c'est-à-dire il s'agit à la fois de dissuader les États-Unis et vis-à-vis de la Corée du Sud. Quel est l'objectif? Est-ce que la Corée du Nord pourrait être tentée de réessayer une invasion de la Corée du Sud comme en 1953, François Godemont?
Théoriquement, il y a une capacité d'invasion, il y a une supériorité en termes de nombre de canons, en termes de blindés, en termes de troupes déployées. Il y a des barrages qui ont été faits sur des barrages artificiels non loin de la zone démilitarisée qui pourraient être lâchés et provoquer par exemple des inondations, y compris jusqu'à Séoul. Il y a un tableau apocalyptique. Et la Corée du Nord, bien que je n'ai pas entendu récemment de cas de ce genre, a très longtemps pratiqué l'infiltration par des tunnels et l'envoi de terroristes ou d'espions d'ailleurs en Corée du Sud. Ceci étant dit...
Comme à Gaza, quoi.
Oui, d'une certaine manière, oui. Ceci étant dit, la supériorité technologique sud-coréenne et le parapluie américain, notamment au niveau de l'aviation, sont quand même écrasants. On a le modèle de la guerre par surprise de 1950, mais les Américains n'étaient pas là. Mais la Corée du Sud était une puissance agricole, en gros. Faut se souvenir, hein, le territoire sud-coréen a été balayé 4 fois. Séoul a changé de main 4 fois pendant la guerre de Corée. Ça, c'est le cauchemar pour les Sud-Coréens. Donc, si les Nord-Coréens lançaient une initiative conventionnelle, disons, à mon sens, les dégâts seraient immenses dans les premières heures dans une région comme Séoul, et c'est une métropole de dizaines de millions d'habitants, mais la réplique serait terrifiante pour les Nord-Coréens. Ce qui est beaucoup plus difficile, ensuite, c'est d'imaginer une occupation, une libération, si vous voulez, et un passage vers la Corée du Nord. Donc, grosso modo, je pense qu'aucun des deux, malgré les déclarations sur la réunification à tout prix, ne souhaite que cet événement se produise.
Oui, je partage le scepticisme de François Godemont. Première raison de ne pas prendre ce type d'initiative, c'est que c'est mettre en risque, mettre en péril, finalement, le régime nord-coréen lui-même et tout ce qu'il a construit depuis 1948. Deuxième raison, ils ont déjà essayé une fois, certes c'était il y a longtemps, mais ça ne s'est pas très bien passé. Et ça leur a coûté malheureusement très cher en vies humaines et en infrastructures. Troisième raison, lorsqu'on voit la manière dont ça s'est passé en Ukraine pour faire l'unification des Russes et des Ukrainiens, selon le terme utilisé, vous le savez bien, par Vladimir Poutine, ça ne s'est pas passé aussi bien que M. Poutine l'espérait. Il y a quand même une seule chose qui change, et là le parallèle s'arrête avec l'Europe, c'est qu'effectivement, comme l'a rappelé François, Séoul, c'est vraiment tout près de la ligne d'armistice. Voilà, Kiev est beaucoup plus loin de ce que serait une éventuelle ligne d'armistice.
En termes de kilomètres, Séoul, c'est...
Quelques petites dizaines de kilomètres.
C'est un peu comme ce qui s'est passé en 2008 entre Tbilissi et,
voilà,
et la capitale de la Géorgie et la Russie. Quoi.
Tout à fait.
C'est vraiment presque des zones frontalières. Alors, pourtant, on voit quand même que Séoul s'inquiète du programme d'armement nord-coréen. On va écouter cette déclaration de l'ambassadeur sud-coréen aux Nations Unies, Jungkook Wang, le 18 juin 2024. C'est un son de France 24. Over the
past years. Au cours des dernières années, nous avons constaté que la situation épouvantable des droits humains et humanitaires est étroitement liée aux avancées de ces programmes d'armement, comme deux faces d'une même médaille. La Corée du Nord détourne ses rares ressources pour ses programmes nucléaires et de missiles en violation des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, au détriment du bien-être de la population de la Corée du Nord, tout en bénéficiant de l'impunité politique pour ces violations des droits de l'homme et ces abus dans le pays.
Alors bon, on a bien compris qu'on est très loin d'une grande guerre et d'une nouvelle invasion du Sud par le Nord, mais on peut avoir, François Godemont, des incidents armés, voire une espèce de déstabilisation permanente comme celle qu'on a au Moyen-Orient ?
Moi, je n'y crois pas dans les mêmes proportions. Je trouve d'ailleurs que même si les données stratégiques empirent, la situation tactique entre les deux Corées diminue. On avait, il y a quelque temps encore, des incidents en mer Jaune, par exemple, des bombardements sur des îles proches de choses contestées, des histoires de pêcheurs kidnappés par la Corée du Nord quand ils avaient eu le malheur de s'aventurer un tout petit peu trop loin pour aller ramasser des mollusques. C'est moins le cas aujourd'hui, on entend moins parler de tunnels. Il faut quand même se dire que la force conventionnelle sud-coréenne est très importante. C'est pas un hasard si la Pologne vient de trouver très rapidement quantité de blindés et d'équipements conventionnels qu'elle ne pouvait pas commander en Europe et qu'elle ne pouvait même pas faire livrer les États-Unis. C'est parce que la Corée du Sud a un budget militaire équivalent à celui de la France, a un budget d'équipement qui, jusqu'à une époque récente, était plus important. Je ne sais pas ce que ça devient avec la hausse, en principe, du budget d'équipement français. Et donc, elle est en elle-même une force très respectable.
Alors, finalement, l'armistice de 53, il est aussi solide qu'avant, voire plus, François Godemont ?
À mon sens, oui. Je pense que c'est plutôt la confirmation de la solidité du régime nord-coréen qui est là, qui est le facteur principal et à laquelle tout le monde se résigne, chinois compris. Vous savez, les Chinois avaient longtemps préparé des routes, des ponts, des choses qui permettaient littéralement la prise de contrôle économique de la Corée du Nord. Tout ça s'arrête à la frontière depuis plus d'une dizaine d'années. Le régime a résisté non seulement par rapport aux Occidentaux, par rapport à la Corée du Sud, mais par rapport à un parrain chinois un petit peu lourd. C'est ça qui est important.
Bruno Tertrais.
Oui, c'est pour ça d'ailleurs que moi j'avais interprété l'accord de sécurité, l'accord de défense russo-nord-coréen comme une double manifestation d'indépendance vis-à-vis de Pékin. C'était une manière pour la Russie de dire à Pékin, vous voyez, nous ne dépendons pas tant que cela de vous, et pour la Corée du Nord de dire à peu près la même chose. Alors, la pure rationalité politico-militaire devrait nous empêcher d'envisager un scénario de réinvasion de la Corée du Nord par la Corée du Sud. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure. Mais attention tout de même, l'histoire nous apprend que, bah voilà, et parfois un accident est vite arrivé. Mon collègue américain Jeff Lewis, qui n'est pas un expert de la Corée du Nord, mais qui est quelqu'un qui a beaucoup d'intelligence stratégique, avait écrit il y a quelques années un roman qui, en gros, commençait par un avion de ligne abattu, qui s'était trompé de route, et en gros, qui est abattu par la Corée du Nord, au-dessus de la péninsule. Et là, il y a une succession d'événements, un enchaînement, qui finit par une guerre entre les deux Corées. Donc, vous voyez, ça n'est pas parce que l'invasion pure et simple de la Corée du Sud par la Corée du Nord n'est pas quelque chose de très crédible, beaucoup moins, par exemple, si on veut faire un parallèle dans la région, avec, bien sûr, l'invasion de Taïwan par la République populaire de Chine. Mais c'est pas parce que ce projet-là nous semble pas très crédible qu'il ne peut absolument pas y avoir de guerre sur la péninsule.
Alors, on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé en 2019 avec les tentatives de Donald Trump 1 de dénucléariser la Corée du Nord avec un accord diplomatique. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu, François Godemont, dans les détails et de savoir pourquoi sa tentative a échoué? Est-ce que c'était la méthode Trump qui n'était pas la bonne? Est-ce que c'était voué de toute façon à l'échec parce que la Corée du Nord n'avait absolument aucun intérêt à se dénucléariser? C'est très important qu'on y revienne parce que aujourd'hui on est un petit peu confronté à la même chose entre Donald Trump et l'Iran.
Oui, on pourrait être confronté sur un plan plus géoéconomique au même problème entre Donald Trump et Xi Jinping également. Il y a certainement une erreur de méthode qui tient vraiment à Donald Trump, qui est une erreur différente de ceux qui avaient voulu l'engagement et qui étaient persuadés que l'engagement donnerait des dividendes. C'est la personnalisation à outrance de la diplomatie basée sur le fait que, de part et d'autre, parce que Trump s'imagine aussi être un dirigeant autoritaire et essaye de l'être, comme ce sont de fortes personnalités, on va pouvoir traiter. Donc Donald Trump injurie d'abord Kim en le traitant de « Rocket Man », puis se déclare son meilleur ami, le rencontre à Singapour, l'élève à un statut, va jusqu'à...
Mange un cheeseburger avec lui.
Oui, et l'autre se prête au jeu. Il va également, symboliquement, franchir la ligne de démarcation à Panmunjom, une espèce de petit trait en béton, si vous voulez, de 10 cm de haut, comme une marche que Trump fait. C'est comme si c'était la première visite d'un président en Corée du Nord. Donc, encore une fois, la Corée du Nord est un cimetière des illusions, de ce point de vue-là.
Bruno Tertrais, est-ce qu'on sait quelles sont les intentions aujourd'hui de Donald Trump 2 vis-à-vis de la Corée du Nord? Est-ce qu'il a complètement oublié ce pays, qui constituait pourtant une de ses priorités au cours de son premier mandat? Est-ce qu'il est passé à complètement autre chose ou est-ce qu'il a encore un plan?
Alors, j'ai envie de vous dire que, pour ce que l'on voit du comportement de Donald Trump, il pourrait se réintéresser à la Corée du Nord dans deux scénarios. Premier scénario, il a essayé de faire la paix en Ukraine, ça ne marche pas. La paix au Proche-Orient, ça ne marche pas. La paix avec l'Iran, ça ne marche pas. Peut-être qu'il se dit, comment est-ce que je vais, et je ne plaisante pas, Isabelle Lasserre, comment est-ce que je vais, moi, avoir mon prix Nobel de la paix? Eh bien, peut-être que je vais réessayer avec la Corée du Nord. Deuxième scénario, c'est la Corée du Nord qui se rappelle au bon souvenir de Donald Trump, et on sait que ce pays pourrait décider à un moment, pour les raisons qu'on expliquait tout à l'heure, pourrait se rappeler au bon souvenir de Donald Trump. Donc c'est pas impossible. Après, sa capacité à se désintéresser totalement de quelque chose, d'un dossier dans lequel il a investi, est quand même assez phénoménale, donc je ne parierais pas forcément pour une nouvelle initiative de Trump. Je rappelle quand même que les vidéos que Donald Trump avait produites pour sa rencontre avec Kim Jong-un et ressemblait à celle qu'il avait produite pour Gaza. C'est assez phénoménal de voir ce promoteur immobilier raté, il faut toujours le rappeler, imaginer et représenter en vidéo des projets complètement hallucinants où on voit voilà, la Corée du Nord ou Gaza transformée en nouvelle Dubaï. Et quelque part, je pense qu'il y croit. C'est ça qui est intéressant et troublant avec Trump, c'est que quelque part, il y croit.
Et vous, François Godemont, est-ce que vous pensez que, par exemple, Donald Trump peut se réveiller demain matin et tenter d'échanger la fin des exercices militaires communs avec la Corée du Sud en échange d'un arrêt des essais nucléaires de la Corée du Nord? Il y a des choses possibles comme ça?
Ce qui serait possible, c'est que l'aggravation de la tension, d'abord commerciale, avec la Chine, la confirmation au carré, si j'ose dire, par Donald Trump d'une politique de containment plus technologique et plus sécuritaire de la Chine, ce que l'administration Biden a fait, qui elle-même suivait la première administration Trump, mais la deuxième commence à donner des signes de renforcement. Tout ceci crée une crise géopolitique avec la Chine et il est de l'intérêt américain absolu, tout comme il faut maintenir en ligne l'allié sud-coréen et l'allié japonais, dans le cas de cette crise géopolitique dont on se dit quand même que l'objet principal serait autour de Taïwan. Il faudrait, à ce moment-là, essayer de diminuer ce que je pourrais appeler l'accidentalité nord-coréenne. Donc, ouvrir quelque chose. Maintenant, on est dans la spéculation. Et jusqu'ici, encore une fois, c'est le théorème que j'essayais d'énoncer au début, la Corée du Nord profite plutôt des épisodes de tensions régionales et internationales pour elle-même durcir le ton. C'est pas tellement le moment où elle choisit d'aller vers la paix. Mais il y a quand même quelque chose qu'il faut dire, c'est que les possibilités globales de désordre de la Corée du Nord, à mon avis, ont beaucoup baissé. Le Pakistan n'est plus tout à fait ce qu'il était.
C'est-à-dire le Pakistan?
N'a plus tout à fait la même force, ou plus tout à fait le même punch, si vous voulez, que l'époque où il échangeait missiles et technologies nucléaires. L'Iran est en petite forme. Qui ait un accord avec les États-Unis ou qui n'y en ait pas, Israël a changé la donne au Proche-Orient. Alors oui, il y a l'envoi spectaculaire de troupes en Ukraine, mais après tout, en quoi ça concerne Donald Trump et les États-Unis? Ça concerne l'Europe, selon la doctrine Trump de sécurité. Donc, la Corée du Nord, je pense, aura plus de mal à prendre des initiatives disruptives, si vous voulez, qu'il y a 10 ou 20 ans. On parlait des attentats, on parlait de ce roman citant un avion de ligne, mais il faut se souvenir que la Corée du Nord a fait chuter un avion portant des ministres sud-coréens en visite en Birmanie, à l'époque, et que ça a failli provoquer une très très grande crise avec la Corée du Sud.
C'était en quelle année, ça?
Ah, je sais, c'est le général Chun Ju-hwan qui était un peu le dernier militaire en charge de la Corée du Sud.
Alors, Bruno Tertrais, il y a quand même une forte érosion de la confiance des alliés de Washington envers les États-Unis aujourd'hui, et c'est très très sensible en Corée du Sud. Comment la Corée du Sud peut-elle réagir à ce vide de sécurité américaine? On parle beaucoup d'une volonté de se nucléariser, on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de réaction de la Corée du Sud? Comment on vit, en fait, le vide sécuritaire américain dans la région?
Alors d'abord, je ne suis pas sûr que ces deux pays voient un vide sécuritaire américain dans la région. Peut-être qu'ils se rassurent à bon compte, mais en tout cas, ce qu'ils voient, c'est d'abord les discours américains, les intentions de basculer une partie du dispositif militaire américain de l'Europe vers l'Asie. En fait, depuis les années 1960, chaque fois que Tokyo ou Séoul, le Japon ou la Corée du Sud, doutent de l'engagement militaire américain, ils parlent de faire eux-mêmes leur bombe atomique. Moi, c'est ce que j'appelle les cris de détresse des alliés qui se sentent abandonnés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des vraies velléités. À un certain moment, en Corée du Sud, on a commencé quelques petites expériences, voilà, mais on n'a pas lancé un vrai programme nucléaire national. Alors, les Coréens du Sud en parlent déjà depuis 2 ou 3 ans, mais ils en parlent sans savoir exactement ce que ça voudrait dire. Quand nous, les Européens, on discute avec eux et on leur dit « Mais vous avez réalisé ce que ça veut dire en termes de coûts d'investissement ?» Et vous avez réalisé ce que ça voudrait dire en termes de coûts commerciaux et politiques, parce que nous ne pourrions pas, nous, Européens, continuer à traiter avec vous de la même manière. Il dit, ah, effectivement, bon, vous voyez, bon, il y a quand même un discours sur l'arme nucléaire en Corée du Sud, comme d'ailleurs en Ukraine et en Pologne, qui n'est pas totalement mature, on va dire. Alors, je ne peux pas vous garantir qu'ils ne feront jamais l'arme nucléaire, mais simplement, je crois qu'il faut prendre ces déclarations comme des avertissements et comme des cris d'alarme, tout simplement. Et nous avons besoin d'être rassurés. Et juste pour répondre à votre question, il y a d'autres moyens aussi, effectivement. Il y a par exemple le fait que ce sont deux pays, la Corée du Sud surtout et le Japon dans une certaine mesure, qui cherchent à se doter de moyens de frappe à longue portée contre le territoire coréen du Nord ou chinois, non nucléaire, cette fois, mais simplement, c'est des pays qui développent leur propre capacité de dissuasion et de défense conventionnelle à défaut du nucléaire. Dernière chose, on voit, alors ça je ne sais pas jusqu'à quel point cela se déroulera dans cette direction, mais le Japon et la Corée du Sud semblent, avec les États-Unis, y compris ceux de Trump, davantage enclins à coopérer entre eux, parce qu'ils sont forcés de développer un peu de solidarité entre eux, alors qu'ils ont des relations extrêmement compliquées du fait de l'histoire. Voilà, ils semblent aussi destinés aujourd'hui, en tout cas, d'avoir envie de coopérer davantage entre eux, alors que c'est historiquement très compliqué.
François Gaudement.
Je rebondis sur le dernier point. C'est un paradoxe de plus. Personne ne se rend compte que le Japon, la Corée du Sud et la Chine ont une proportion d'échanges commerciaux entre eux qui est supérieure à celle qui existe entre les pays de l'Union européenne. Sans Union européenne, sans accord, et sans pour autant d'ailleurs s'être rapprochés complètement géopolitiquement. C'est un point important. Sur le plan nucléaire, je suis tout à fait d'accord avec Bruno, ce serait possible, certains diplomates sud-coréens y font allusion, de développer une bombe de façon peut-être symbolique en moins de 3 mois. C'est à leur portée. Mais il faut la mettre sur des missiles. La Corée du Sud, jusqu'ici, suit l'accord sur la limitation des missiles à portée intermédiaire, et donc ne développe pas de missiles allant au-delà, je crois que c'est 300 kilomètres, si ma mémoire est bonne. C'est un changement complet, et il faudrait faire ça sans l'assistance des États-Unis ou d'autres. Donc en effet, c'est une opération à très longue portée, à très haut risque.
Mais quand même, de manière générale, quel est l'effet de Donald Trump 2 dans la région, c'est-à-dire vis-à-vis de la Corée du Sud, mais aussi vis-à-vis de Taïwan et vis-à-vis du Japon, chez tous ses alliés de Washington? Bruno Tertrais, puis François Gaudement.
J'étais au Japon il y a quelques semaines, et justement, j'étais assez surpris de voir que, pour les officiels gouvernementaux japonais, la visite de Peter Hegseth, le secrétaire à la défense américain, s'était très bien passée. Il avait donné tous les bons messages. Et donc, ils étaient plutôt rassurés. Ce à quoi il faut toujours répondre quand même, mais attention, c'est quand même Trump. Et Trump peut vous abandonner du jour au lendemain. C'est parce que je leur ai dit directement, mais le simple fait d'avoir effectivement un Pentagone qui cherche vraiment à rééquilibrer la puissance américaine de l'Europe vers l'Asie, il reste qu'avec Trump, eh bien, on ne pourra jamais exactement savoir sur quel pied danser.
Vous voyez les choses de la même manière, François Gaudement?
L'imprévisibilité de Trump, oui. D'ailleurs, maintenant, le Japon est frappé par des droits de douane plus élevés que l'Union européenne. 24% au lieu de 20%, ceux qui viennent d'être suspendus pour 90 jours. Il y a un discours officiel, et le discours officiel japonais, c'est on a su très bien traiter Trump 1, Shinzo Abe, avec un mélange de politesse exquise et de concessions souvent plus dans la forme ou dans l'apparence que dans la réalité, a réussi, si vous voulez, à contourner l'obstacle Trump et à maintenir les relations. C'est ce qu'ils pensent qu'ils continueront à faire, avec évidemment des points d'inquiétude derrière. Et c'est quand même pas nouveau que l'ambivalence japonaise vis-à-vis du grand allié américain, avec les hésitations, en particulier au sein des milieux plus nationalistes, et dans le PLD, il y a aussi le Parti libéral-démocrate, il y a aussi beaucoup de nationalistes.
Et la crise politique interne sud-coréenne, avec la destitution du président récemment, est-ce qu'elle affaiblit considérablement le pays dans le contexte international un peu chaotique ou pas?
Le risque géopolitique, c'est l'élection d'un opposant, plus, on va dire plus à gauche, plus progressiste, dans une situation qui vraiment ne s'y prête pas sur le plan régional. Parce qu'il n'y a pas de doute que l'actuel président a fait la paix, entre guillemets, avec le Japon, c'est-à-dire arrêté toutes les polémiques. On a repris la coopération tripartite militaire Japon, Corée du Sud, États-Unis. Un dirigeant classé plus progressiste pourrait tenter d'enfourcher à nouveau les reproches datant à l'époque de la guerre et détruire ce climat. Pendant des années, plusieurs présidents l'ont fait aux grandes dames des Japonais. Je crois pas que ça aille très au-delà. Je crois pas qu'il faut sous-estimer quand même la solidité de l'État sud-coréen et de l'économie sud-coréenne. Il faut rappeler que le revenu par habitant est plus élevé qu'au Japon.
Et on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut revenir un peu plus en détail sur la position de la Chine aujourd'hui vis-à-vis des deux Corées, celle du Nord et celle du Sud? Comment Pékin a réagi en fait à ce partenariat stratégique entre la Corée du Nord et la Russie, un peu plus dans les détails?
Il y a eu quelques signes de déplaisir au niveau des experts, aucun à ma connaissance sur le plan officiel. La Chine a un intérêt énorme à maintenir l'équilibre entre les deux Corées. Elle n'a pas forcément plu aux Sud-Coréens sur plusieurs plans. D'abord, il y a eu la polémique contre la défense antimissile à haute altitude, l'installation de missiles américains sur le sol coréen qui a entraîné des boycotts organisés officiellement de marchandises sud-coréennes. Il y a un aspect qu'on oublie toujours qui est la décoréanisation visible de la minorité coréenne en Chine. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans ou 15 ans, vous alliez à Pékin, vous voyez des quartiers littéralement coréens avec les hangouls, les caractères, c'est terminé. De ce point de vue-là, le zèle unificateur de Xi Jinping est aussi passé. Donc il n'y a pas d'amour, si vous voulez. Mais il y a une dépendance mutuelle très importante. Vis-à-vis de la Corée du Nord, encore une fois, la Chine a servi pour le transbordement de marchandises en principe sanctionnées, a couvert ça. Moi, je pense que elle considère que la division de la péninsule coréenne est encore un cran d'arrêt pour l'influence américaine dans la région. Paradoxalement, c'est si l'influence américaine reculait complètement, si les États-Unis perdaient complètement la partie en Asie orientale du fait de bourdes diplomatiques ou stratégiques, qu'à ce moment-là, probablement, exactement comme vis-à-vis du Vietnam, la Chine montrerait le bout de son nez. Elle n'a pas tout à fait renoncé à des querelles territoriales mineures, mais réelles, sur la frontière avec la Corée du Nord.
Ce qui est intéressant, c'est que la Chine a effectivement cette ambivalence vis-à-vis de la présence militaire américaine dans la région. Officiellement, j'allais dire structurellement, elle pourrait bénéficier d'un départ américain de la région d'Asie de l'Est. Dans les faits, elle a toujours reconnu à demi-mot que la présence militaire américaine permettait aussi de gérer deux pays avec lesquels historiquement la Chine a eu des relations compliquées, le Japon et la Corée. Donc la Chine, dans ce domaine-là, comme dans beaucoup d'autres, se satisfait pas mal du statu quo.
J'ai un souvenir de l'inauguration de Kim Jong-un. Il y a l'enterrement de Kim Jong-il.
Son père,
et de son père. Et quatre personnes qui sont sur les coins de la, je sais plus si c'est une Cadillac, enfin du véhicule funèbre qui l'emmène. Là-dedans, il y avait l'oncle de Kim Jong-un, Chang Song-taek, qui était un dirigeant âgé. Je me rappelle lire à ce moment-là des écrits chinois très intéressants disant Kim Jong-un devrait écouter les vieux dans son système. Et les vieux, c'était l'oncle qui était pour un rapprochement. L'oncle a été exécuté quelques mois plus tard.
Je m'en souviens très très bien, oui. Mais au sud, on a aussi les yeux rivés sur ce qui se passera à Taïwan. C'est-à-dire que ça va changer un petit peu les données du problème si, dans quelques années, la Chine décide de forcer ce qu'elle appelle la réunification avec Taïwan.
Alors, il y a peut-être un changement qui se produit sur ce plan. Historiquement, la Corée du Sud a
a été très peu solidaire de Taïwan. Et il y a eu des cas, par exemple, de déserteurs chinois, déserteurs militaires, de marins, qui normalement auraient pu être remis à Taïwan, comme c'était un peu le cas après l'épisode de l'armistice de 1953. Et en fait, la Corée du Sud les remettait à la Chine, les rendait à la Chine. C'est une politique extrêmement dure, si vous voulez, mais qui privilégiait diplomatiquement la Chine par rapport à Taïwan. Et il semble qu'il y ait des changements sur ce plan et que, stratégiquement, la Corée du Sud comprenne aujourd'hui, en tous les cas sous l'actuel président, qu'elle est en fait dépendante aussi de la situation à Taïwan.
Bruno Tertrais, comment vous imaginez l'avenir entre les deux Corées ? Plutôt une séparation définitive ou une réunification dans 20 ans ?
Je ne ferai pas de pronostic, mais je rappellerai quelque chose qu'on oublie parfois, à savoir que les régimes, on peut sous-estimer la durée de vie des régimes dictatoriaux, voire ultranationalistes et des dictatures comme la Corée du Nord, mais il faut jamais oublier que ces régimes peuvent s'effondrer très vite. Autrement dit, ils durent plus longtemps que ce qu'on espère, mais ils peuvent aussi s'effondrer très vite. Je ne parierai pas plus sur la pérennité de la Corée du Nord en 2050 que sur son effondrement. Il faut envisager les deux, mais il serait extrêmement déraisonnable d'imaginer qu'elle ne survivra pas en 2050. Elle a montré sa capacité à bénéficier de tous les trafics possibles et imaginables pour construire une économie qui n'est pas celle de la Corée du Sud, mais qui tout de même se tient, en tout cas suffisamment pour que le régime puisse se maintenir en place.
J'ai la même question de conclusion pour vous, François Godemant. Quel avenir pour les deux Corées ? Une séparation, une réunification ? Autre chose ?
Je ne peux pas donner d'autres réponses que Bruno, effectivement, sur ce qui peut se produire dans un régime dynastique et tyrannique. J'ai quand même, un souvenir personnel, un ancien premier ministre de la région qui avait rencontré Xi Jinping et qui avait essayé de le persuader qu'en gros, que la Corée du Nord était le mauvais cheval et que la Corée du Nord ne tiendrait pas. Et je ne peux pas citer ce premier ministre. Et Xi Jinping le regarde et lui répond si il tiendra parce qu'il a des capacités de contrôle technologique de la population, de contrôle digital notamment, extrêmement élevées. Je l'ai pris aussi comme quelque chose auquel Xi Jinping croit en Chine d'ailleurs. Mais c'est un facteur important, cette espèce d'avance technologique extraordinaire par rapport à la population. Pour ça que si je me hasarde, je pense que c'est une faille au sein de l'équilibre du système dynastique ou d'un échec du système dynastique dans le système de pouvoir plus large qui pourrait provoquer un changement. La Corée du Sud vit très bien sans la Corée du Nord. Les deux parties se sont éloignées, même sur le plan linguistique. Alors oui, il y a le thème des familles séparées, mais on est maintenant en 2025. On est 75 ans après, 70 ans après, les familles ont dérivé, si vous voulez. Donc la Corée du Sud pourrait aussi bien continuer et se développer et devenir une puissance moyenne importante sans réunification.
Merci beaucoup à tous les deux. L'heure a sonné de la fin de cet épisode consacré à l'armistice de 1953 entre les deux Corées. C'était Les Grands Accords Internationaux, une émission d'Isabelle Lasserre, réalisée par Laure-Hélène Planchet, avec à la technique aujourd'hui Ludovic Auger, attaché de production Théa Corler. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur le site franceculture.fr.